VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. À Malte, le sommet de La Valette, qui a réuni pendant 2 jours une cinquantaine de leaders africains et européens, s'est terminé par l'adoption d'un plan d'action contre l'immigration clandestine en Europe. Idriss Fall.
L'Union européenne a mis sur la table 1,8 milliard d'euros dans des projets pour freiner les arrivées d'Africains. Elle a appelé les États membres à mettre la main à la poche pour doubler la mise, mais les promesses des pays européens n'atteignent même pas 80 millions d'euros. C'est loin d'être suffisant pour le président nigérien Mahamadou Issoufou. Le Sénégalais Macky Sall se demande pourquoi insister pour renvoyer les Africains chez eux pendant qu'on parle d'accueillir les Syriens et d'autres. Son homologue ivoirien Alassane Ouattara s'est même montré agacé, soulignant que le retour dans le pays d'origine ne saurait être la seule réponse. Malgré l'approche de l'hiver, les migrants, contre vents et marées, vont toujours à l'assaut de l'Europe. Et pour tenter de freiner le flot, la Slovénie a installé des barbelés à sa frontière avec la Croatie et la Suède rétablit les contrôles à ses frontières méridionales.
Burkina Faso, la commission d'enquête sur le putsch raté du 17 septembre assure avoir identifié commanditaire, complice et exécutant du coup de force. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui devant la presse le président de la commission. Ce rapport, dont le contenu n'a pas été dévoilé, avait été commandé par le gouvernement le 25 septembre pour situer les responsabilités, identifier les auteurs, complices, militaires et civils impliqués dans la tentative de coup d'État perpétrée le 16 septembre 2015. Et puis une première au Niger, une trentaine de députés de l'opposition ont déposé hier une requête sur le bureau du président du Parlement pour demander la mise en accusation du président de la République, Mahamadou Issoufou, pour haute trahison. Selon la constitution du Niger, il faut une majorité des 2/3 des députés pour faire passer une telle requête. De Niamey, notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Dans la requête datée de ce 11 novembre 2015, les 34 députés signataires, tous de l'opposition, demandent à la représentation nationale de voter la mise en accusation pour haute trahison du président de la République Issoufou Mahamadou. Les faits constitutifs de haute trahison de la part du magistrat suprême selon le texte des signataires sont de deux ordres. Premièrement, compromission des intérêts du peuple à travers l'affaire de la restitution des devises étrangères de près de 9 milliards de francs CFA saisies par la douane à l'aéroport de Niamey récemment et la signature d'un contrat léonien avec une des filiales du groupe français Areva pour l'exploitation de l'uranium. Deuxièmement, le soutien ou la caution de graves violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conformément à l'article 144 de la Constitution, la mise en accusation du président de la République est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale. Reste à savoir si les signataires auront les 74 députés requis pour faire passer le texte. Reste aussi à savoir si la requête sera discutée vu le silence du règlement intérieur sur la procédure à suivre pour examiner une telle requête, une première dans l'histoire démocratique du Niger. Abdelrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, 36 ministres et secrétaires d'État, dont 7 femmes, ont finalement prêté serment dans la résidence du président Muhammadu Buhari à Abuja. M. Buhari a gardé le portefeuille du pétrole. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Ali Buhari, professeur à l'université de Kessi, près d'Abuja.
Avec la formation de cette nouvelle équipe, le Nigeria va pouvoir bien démarrer sur le plan économique, politique, morale, voire dans tous les domaines de la vie humaine.
Mais les défis sont nombreux et le président Buhari s'est gardé le portefeuille du pétrole.
Il faut qu'il le garde tous les moments parce qu'il a été pendant les régimes militaires sous Olusegun Obasanjo, ministre du pétrole, donc il a l'expérience. Et compte tenu de la magouille qui existe au sein de ce ministère, qui est la principale source du revenu du Nigérian, il faut quelqu'un capable de veiller sur ce ministère pour pouvoir remporter assez de revenus. La chute du pétrole au niveau des marchés internationaux a vraiment écroulé le Nigérian sur le plan économique.
C'est dire que Kemi Adeosun, ministre des Finances, aura beaucoup de travail alors.
Pas mal de travail. Ce sera un cheval de bataille parce que tout a écroulé avec le gouvernement de Jonathan Kou. La mafie était devenue une habitude. Donc maintenant, on veut s'écarter de cette tendance mafieuse.
L'autre défi, c'est Boko Haram. Mohamed Mansour Dan Ali sera à la défense. Est-ce que vous pensez qu'il pourra faire le travail?
D'après le président lui-même, il a choisi avec une concertation de son parti pour pouvoir allouer les ministères à chacun qui est compétent et capable. Donc, il va falloir les laisser près de ça pour voir si oui ou non il serait capable de bien diriger les affaires de ces ministères. Mais pour le moment, le président nous a assuré que les ministères sont bien répartis selon la compétence de chaque ministre.
Il suffira maintenant de se mettre au travail, ce qui est un autre défi.
On va se mettre au travail parce qu'on a acquis pas mal de retard. Aujourd'hui même, après l'inauguration, il y a un conseil des ministres qui a eu lieu, le gouvernement est déjà sur pied.
Ali Bouhari, professeur à l'université de Kessi, près d'Abuja au Nigeria.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, vote dans quelques minutes au Conseil de sécurité de l'ONU à New York d'une résolution qui condamnerait les violences dans ce pays des Grands Lacs. Alors que les tractations continuent à New York, une réunion sera prochainement organisée en Afrique sur la crise. Nicolas Pino.
Oui, la résolution qui sera adoptée ce jeudi n'aura sans doute aucun caractère contraignant. Le Conseil de sécurité va condamner les violations des droits de l'homme en cours au Burundi. Cette situation à Bujumbura inquiète la communauté internationale. Les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne ont appelé ce jeudi le gouvernement burundais et des représentants de l'opposition à se rencontrer d'urgence pour faire cesser les violences et trouver une solution politique à la crise. Nous sommes convaincus de l'urgence d'organiser une réunion entre le gouvernement burundais et des représentants de l'opposition à Addis Abeba ou à Kampala, sous la présidence de Yoweri Museveni, le médiateur dans cette crise. Le communiqué est signé par le secrétaire général adjoint de l'ONU, Yann Eliasson, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Kosazana Dlamini Zuma, et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, qui se sont rencontrés en marge du sommet de La Valette sur les migrants. Depuis le mois d'avril, au moins 240 personnes ont été tuées et plus de 200 000 personnes ont quitté le Burundi. L'Union africaine a mis en garde contre les conséquences dévastatrices de la crise actuelle pour le pays et la région des Grands Lacs.
La visite du pape François fin novembre en Centrafrique s'annonce risquée selon le ministère français de la Défense. Les précisions de Félix Yepassi Zimbrou.
Des centaines de milliers de chrétiens vont affluer des pays voisins comme le Cameroun ou du Congo-Brazzaville sur des routes non balisées, d'après l'entourage de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. La force Sangaris, avec seulement 900 hommes, n'aura pas assez de moyens pour faire face à cette affluence de fidèles catholiques, avertissent les mêmes sources. La France lance un avertissement à peine voilé, disant que Sangaris pourra assurer la sécurisation de l'aéroport et fournir une capacité d'évacuation médicale en cas d'accident, mais ne pourra pas aller plus loin. La République centrafricaine n'a pas encore totalement reconstitué une armée et une force de la police capable de gérer des mouvements de foule. Le pape François, qui se rendra pour la première fois sur le continent africain, visitera d'abord le Kenya, l'Ouganda, puis la Centrafrique. Le Vatican a maintenu cette visite les 29 et 30 novembre, malgré les récentes violences qui ont fait 61 morts à l'approche des élections du mois prochain en RCA.
Congo-Brazzaville, l'opposant en exil en France, Ferdinand Mbarou, a été blessé par balle mardi alors qu'il sortait de son domicile à Besançon, à Besançon, en banlieue parisienne. Blessé à l'épaule, il a été conduit à l'hôpital dans un état sérieux, mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé le procureur à l'AFP. Et puis, en Angola, 12 opposants au président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979 ont été arrêtés hier à Luanda, en marge des célébrations du 40e anniversaire de l'indépendance. Et au Kenya, le collectif Journalists for Justice, basé à Nairobi, affirme que l'armée kenyane est impliquée dans des trafics de charbon et de sucre en Somalie pour une valeur entre 200 et 400 millions de dollars. Et pour terminer, en Mauritanie, 17 organisations de défense des droits de l'homme exigent la libération de Biram Da Abeid et de Biram Bilal Ramdan, deux militants anti-esclavagistes condamnés à 2 ans de prison. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.